Cela est simple. Apprends qu'il y avait autrefois dans les temps anciens, dans les temps reculés, un homme qui était pêcheur de son métier. Et on dit qu'il partait tous les matins avec son filet et qu'il le jetait au meilleur endroit du fleuve. Enfin, quand on dit meilleur endroit, sans doute avait-il été un endroit généreux en d'autres périodes. Mais pour ce pêcheur précisément, c'est l'endroit de la nullité et de l'inexistence. Son filet reste désespérément vide, et pourtant il le jette nombre de fois. On dit qu'un jour qu'il était ainsi à pêcher, le soir tombait, et trois hommes sont venus de ce côté. C'était des marchands qui déambulaient après avoir beaucoup marché. Et lorsque le chef des marchands entend la plainte de cet homme, il s'arrête en lui disant: Ô toi, pourquoi ces pleurs? Et pourquoi ces malédictions? Et pourquoi ces prières? Je jette mon filet jour après jour. Et le fleuve semble ne pas vouloir m'honorer. Je ne sais pas pourquoi la destinée est ainsi si terriblement attachée à mon cou. Eh bien, jette-le sur ma chance. Quoi que tu retires du fleuve à ce moment, je te le paye 100 pièces d'or. Et le pêcheur accepte, et le filet à présent épouse l'eau et s'enfonce. Et au moment de le sortir, mais cela est tout à fait impossible. Il est devenu si lourd. Si lourd qu'il est obligé lui-même de plonger pour soulever le filet et pour l'amener jusqu'au bord. Mais aucun poisson dans ce filet. Simplement un grand coffre de bois. Et le pêcheur reçoit les 100 pièces d'or. Et le chef des marchands marche devant, tandis que les deux autres portent le coffre. Et ils se dirigent non pas vers une auberge où ils auraient élu domicile le temps de leur passage en cette ville, mais ils se dirigent tout simplement vers le palais du roi. Car le chef des marchands n'est autre que le roi lui-même, qui chaque soir prend plaisir, ainsi habillé, sans être reconnu, à se promener pour entendre, pour voir, pour savoir, et pour vivre, et pour interroger. Et il est tellement impatient de découvrir ce que ce coffre peut bien contenir. Ce coffre. On dit que lorsqu'on l'ouvre, après avoir brisé les serrures, on a trouvé un grand tapis roulé. Et on déroule le tapis. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept morceaux d'une femme découpée. Et le roi regarde son vizir, qui l'accompagnait à la promenade. Il lui dit: Tu es chargé de la sécurité en cette ville et en ce pays. Et je vois que l'on peut tuer et découper les habitants sans que tu n'en saches rien. Je t'accorde 3 jours pour trouver la raison et l'assassin. Et si tu ne réussis pas, je veux que ta mort serve d'exemple à tous les incapables qui vont te succéder. Et le vizir baisse la tête et rentre chez lui. Et l'on dit que durant les 3 jours, il est resté prostré. Comment trouver dans une ville si immense, qui était la plus belle des villes en ce temps-là, avec tant de voyageurs et tant d'habitants, et tant d'invités et tant d'artistes, comment trouver? Et il n'a pas cherché. Et il est revenu, la tête basse au grand roi. Tu m'as demandé l'impossible. Eh bien, je vais accomplir le possible avec toi. Quelque temps plus tard, toute la ville est invitée à assister à la mort de ce vizir. Et on annonce qu'une femme a été trouvée, coupée, dans un tapis, roulée dans un coffre au fond du fleuve, et que ce vizir a été non seulement incapable d'empêcher ce meurtre, mais incapable d'en découvrir la vérité. Et à peine a-t-on terminé d'évoquer ce malheur, avant même que le sabre soit levé pour s'abaisser sur le cou de ce vizir, dans l'assistance, de ce côté, on voit un homme s'approcher, bousculer les uns les autres, s'excuser, en disant « Vous ne pouvez pas faire ça. Arrêtez, je vous en supplie. » Le vizir est innocent, le coupable c'est moi. C'était un jeune homme d'une immense tristesse et d'une grande beauté qui était là, la tête baissée. Le roi a ordonné qu'on libère son vizir et qu'on attache ce jeune homme afin de le tuer. Le sabre n'était pas encore levé lorsque, dans l'assistance de ce côté, il y a eu comme un bruit, comme un brouhaha, un mouvement, et on peut voir un homme bien vieux s'approcher, s'excuser, passer au-dessus des corps assis pour dire « Vous ne pouvez pas faire cela, ne tuez pas ce jeune homme, le coupable c'est moi !» Et le roi ne comprend pas. Il n'avait personne à condamner, maintenant deux coupables s'accusent. Et comme il aime savoir la vérité, ils sont invités dans le palais. Et l'on dit que c'est le vieillard qui parla le premier. « Ô grand roi, sache que la jeune femme morte et découpée était mon épouse. C'est vrai que j'étais bien vieux et que cette jeune femme était bien jeune. Mais la vieillesse ne m'empêchait pas d'être d'une jalousie terrible. Un jour, je rentre du marché. Et je vois, ou plutôt j'entreaperçois la silhouette de mon épouse s'éloigner de la fenêtre. Je lui dis, oh toi femme, que faisais-tu derrière cette fenêtre? Elle me dit, mais je n'étais pas derrière la fenêtre, je passe dans la maison de mon époux. Je l'ai regardée. Oh toi, femme trompeuse, femme menteuse, comment oses-tu ne pas dire la vérité? Tu étais derrière cette fenêtre pour voir celui que tu allais inviter dans cette maison pour me tromper. Et la colère me saisit à ce moment au grand roi. Et ne m'appartenant plus, appartenant à mon poignard que je brandis, je tuai ma femme et je la coupai en 7 morceaux. Puis je roulai les corps dans un tapis, dans le coffre, et je fis porter le coffre jusque dans les eaux du fleuve. À peine avait-il terminé de parler que le jeune homme a dit au grand roi « N'écoute pas les paroles de celui-là, il ne connaît rien. Et il prononce ceci pour me sauver moi-même, car il n'a jamais été l'époux de cette jeune femme. En vérité, c'était son père, et l'époux, c'était moi. Et il a parlé pour sauver ma vie. Il est d'une grande générosité. Vois-tu ? La chance a favorisé le début de ma vie. La famille dans laquelle je suis né était si riche qu'elle a pu payer les meilleurs professeurs. Et j'ai tant appris du monde, et j'ai tant appris des livres et de la poésie, et je connaissais toutes sortes d'écritures. Et j'ai eu la grande chance d'épouser cette jeune femme que j'ai aimée et qui m'a aimée pendant des années. Et nous avons ainsi eu la chance de voir la fertilité nous récompenser. 3 enfants. Et puis, un jour, voilà que le malheur est arrivé dans ma maison. comme s'il avait lui-même soulevé la tenture qui cachait l'entrée de notre chambre. Un matin, ma jeune femme fut incapable de se lever, et même incapable de parler, de prononcer la moindre parole. Et moi, je lui demandais ce que je pouvais faire pour elle, pour l'aider, pour la sauver, pour lui permettre de retrouver cette vie qui semblait s'éloigner d'elle déjà. Et elle n'a pas pu me répondre. Et je suis allé chercher tous les médecins qui ont accepté de venir et de me suivre, et qui n'ont rien vu, qui n'ont rien su, qui n'ont pas su me consoler et me rassurer. Et les jours passent, et je vois peu à peu ma femme devenir plus immobile qu'une statue. Et son souffle ne s'entend plus. Et ses paroles ne sont plus que l'ombre des paroles. Et lorsqu'elle parle, je dois tendre l'oreille. Et je ne comprends pas ce qu'elle veut me dire. Et ses yeux sont déjà, n'appartiennent plus déjà à ce monde. Et un jour, considérant que sa vie allait s'arrêter, je lui ai demandé si elle voulait que pourrais-je faire pour l'honorer, pour lui rendre tout le plaisir qu'elle m'avait donné. Et j'ai compris sa réponse depuis tant de jours. J'ai compris. Elle me demandait simplement le grand honneur et le grand bonheur de goûter un fruit merveilleux. Un fruit dont on a tant entendu parler, mais que je n'avais, pour ma part, jamais goûté. Qui pousse en ces pays lointains. Et je lui ai demandé simplement de tenir en vie quelque temps. Et je suis parti. 7 jours pour me rendre à un verger réputé. Et là, j'ai payé très cher pour obtenir 3 pommes. Et je suis revenu. Et lorsque j'entre dans notre chambre, mon épouse est toujours vivante. Et je m'approche et je lui dis, oh toi, les pommes que tu désires, les voici. Une rouge, une verte et une jaune. Les voilà pour toi. Je les pose à ton côté. Et le plat est ainsi près d'elle. Et j'entends bien, enfin je vois, je ressens qu'elle est si heureuse. Et de crainte de la troubler et de la gêner par ma présence et de la fatiguer, je m'éloigne. Et je me promène dans la ville. Lançait cette pomme et qu'il la rattrapait. Et moi, je le dépasse dans la cohue, puis je m'arrête et je reviens vers lui. Et je lui dis, oh toi, dis-moi, mais tu tiens en tes mains un fruit tout à fait rare. D'où te vient-il? Et il me répond, en partant d'un grand rire, de mon amante. De ton amante? Ah oui! Elle est affublée d'un mari qui est une véritable malédiction. Nous n'arrivions pas à l'éloigner. Et enfin, l'idée nous est venue de contrefaire la maladie, et de souffler, et de ne plus parler, et de le voir se décomposer là. Et enfin, le jour où il pose la seule question qu'il aurait dû poser depuis longtemps, nous l'éloignons pour 7 jours de félicité. Il vient de revenir aujourd'hui. Quel malheur pour moi. J'étais caché dans la chambre, j'ai tout vu. Et ses regards, et sa présence, et les 3 pommes posées. Et moi, je lui ai laissé partir cet homme. Je n'ai pas compris Comment un tel bonheur avait-il pu être bâti sur tant de mensonges? Et je suis rentré chez moi sans attendre. Et lorsque je m'approche de mon épouse allongée, je regarde dans le plat sur le côté. Deux pommes étaient posées. Et la jaune n'était plus là. Et j'ai attrapé mon épouse en lui disant: Oh toi, comment oses-tu contrefaire ainsi la maladie? Comment oses-tu tromper ton époux? Où est cette pomme? Et elle a répondu dans un souffle qui semblait être le dernier, qu'elle ignorait totalement. Tu viens de prononcer tes dernières paroles, car c'est ton amant qui à présent se promène en ville. Et cette femme que j'avais tant aimée, de mes propres mains, je l'ai tuée. Et je m'acharnais sur elle jusqu'à la découper en 7 morceaux. Et lorsque la fureur s'éloigne de moi, j'ai roulé les morceaux dans un tapis, puis dans un coffre, et j'ai fait porter ce coffre pour le marier avec le fleuve. Et au grand roi, cette histoire qui est la mienne, vois-tu, n'est pas encore terminée. Car lorsque je rentre et que j'arrive dans ma maison, et que je vois devant la porte de ma maison mon enfant, mon garçon, le plus grand, je le vois pleurer, et je le vois jeter vers moi des regards terrifiés. Et je lui dis: Mais toi, qu'as-tu? Me dit: Oh mon père, je suis persuadé que lorsque tu sauras ce qui s'est passé, tu me frapperas. Et j'ai tellement peur de toi. C'est que voilà, lorsque tu es revenu, j'étais tellement curieux de voir ces fruits que tu avais été chercher si loin, que je suis entré dans la chambre de notre mère, mais pour ne pas la déranger, j'ai simplement pris l'une des pommes. Et puis je suis venu là devant la porte, dans la rue, et puis il y a un grand homme noir qui s'est approché de moi, qui m'a dit: Qu'est-ce que tu fais avec cette pomme? Ne sais-tu pas que c'est un fruit pour une table de roi? Moi j'ai dit: C'est simplement ma mère qui va mourir, et mon père est allé loin pendant 7 jours pour aller la chercher, et il vient de la rapporter. Il m'a donné une grande claque et il a pris cette pomme. Et moi, j'ai tellement peur. Au grand roi, lorsque j'ai entendu la vérité sortir de la bouche de mon enfant, lorsque j'ai compris à quel point l'on peut être emporté par le galop de la colère et de la stupidité, j'ai regretté amèrement. Et lorsque j'ai appris qu'on allait tuer un innocent, je n'ai pas pu laisser faire cela. Et je ne veux pas que ce vieillard meure pour moi. Je suis le véritable assassin. Tue-moi. Et l'on dit que le roi s'est tourné vers son vizir en lui disant: Je t'accorde 3 jours pour trouver cet homme noir qui a volé la pomme à ce jeune enfant. Et le vizir qui avait vu s'éloigner de lui l'ombre de la mort, la voit maintenant se rapprocher et l'encercler, et il rentre en son palais, et il reste 3 jours prostré pour revenir au grand roi. Je n'ai pas trouvé. Il faut que ta mort serve d'exemple à tous les incapables. Et chacun est invité. Et lorsqu'enfin la raison est donnée, dans l'assistance, de ce côté, bousculade. Laissez-moi passer, vous ne pouvez pas tuer cet homme. Le coupable, c'est moi. Et c'est un grand esclave noir qui s'approche, les yeux embués de larmes, quand il apprend que son maître va mourir, car il n'est autre que l'esclave du grand vizir. Bien, qu'on délivre mon vizir et qu'on tue cet esclave. Et voyez, en ce temps-là, un esclave appartenait corps et vie à son maître. Mais souvent, les esclaves étaient bien traités, et ils appartenaient à la famille. Et le vizir n'a pas pu supporter que son esclave, pour un tour qu'il avait fait, soit tué. Aussi, il s'approche du roi en disant au grand roi: Me permets-tu de te demander ceci? Si je te raconte une histoire qui est plus étonnante que celle de ce jeune homme et de son épouse, acceptes-tu de m'offrir la vie de mon esclave? Et le roi dit, eh bien, parle, je verrai.